Bonjour et bienvenue, je suis Calix et vous écoutez Easy Reader.
I want to reach you emotionally first. I want to make your flesh creep, I want to make your pulse race, I want to make your eyes tear up.
Je suis devenu romancier parce qu'un jour, quand j'étais gamin, j'ai ouvert un livre de Stephen King, que j'ai trouvé ça formidable d'avoir peur, que j'ai lu tout Stephen King, que j'ai eu très peur et qu'à un moment j'en voulais plus, et je me suis mis du coup à écrire des histoires qui font peur.
Easy Reader.
Amateurs de lectures horrifiques ou surprenantes, curieuses et curieux, soyez les bienvenus, et venez découvrir avec moi des ouvrages oubliés ou inoubliables de la littérature fantastique. Afin de profiter au mieux de l'émission, le port du casque est fortement recommandé. Revenons tout de suite sur le précédent épisode. Le meilleur roman que j'ai lu depuis longtemps, nous dit Bret Easton Ellis. Ce livre m'a terrifié, âme sensible s'abstenir, recommande Stephen King. Quel sombre ouvrage a donc pu faire frémir le roi de l'horreur? Il s'agit de Troupe 52, de Nick Cutter, édité en 2014, puis sorti chez nous en 2015 aux éditions des Noëls. Mais déjà, qui est Nick Cutter? Il s'agit du pseudonyme de Craig Davidson, écrivain canadien. Il est principalement connu pour son recueil de nouvelles Rust and Bones, un goût de rouillé d'os en 2006, qui fut adapté au cinéma en 2011 par Jacques Audiard. Mais Craig Davidson utilise deux pseudonymes, Patrick Lestucca et Nick Cutter, qui lui permettent de changer de style littéraire. Et c'est donc sous le nom de Cutter qu'il officie dans l'horreur. En 2014, The Troop, alias Troop 52, puis The Deep, The Acolyte et Little Heaven. Donc Troop 52, traduit par Eric Fontaine, de quoi ça parle? Une fois par an, Tim Riggs, médecin et chef scout, emmène un groupe d'adolescents en pleine nature le temps d'un week-end. Mais cette année, sur cette île déserte et sans moyen de communication, l'arrivée surprise d'un homme émacié souffrant d'une faim sans limite va faire tourner la joyeuse sortie en cauchemar digne de The Thing. Comme indiqué sur la quatrième de couverture, on se retrouve avec un croisement entre Sa Majesté des Mouches et 28 jours plus tard. En effet, plus la contagion prend de l'ampleur, plus les personnages révèlent ce qu'ils ont en eux. Personnages que l'on pourrait penser stéréotypés, mais qui au final révèlent une profondeur inattendue. Cutter nous livre un roman d'horreur vraiment efficace, très gore dans ses descriptions. Un rythme haletant sublimé par une construction narrative inspirée de Carrie de Stephen King. Où l'on passe de l'intrigue principale à des articles de presse, des explications scientifiques, des témoignages. Un roman qui se dévore et que je recommande fortement, surtout si vous avez l'estomac bien accroché. Et maintenant, installons-nous bien dans le canapé, baissons la lumière, ouvrons le roman et commençons la lecture. Et comme d'habitude, je ne connais ni le titre ni l'auteur, et ce sera à vous de trouver ces informations avant le prochain épisode. Elles détalèrent dans l'obscurité, créatures de l'ombre, hôtes permanents des ténèbres. Elles avaient appris à se tenir immobiles, à s'intégrer à l'obscurité quand les énormes monstres vrombissaient au-dessus d'elles dans un fracas de tonnerre qui résonnait dans les tunnels, assaillant le refuge noir, sanctuaire froid et humide qui était le leur, de lumière étincelante et les écrasant de leur poids effroyable. Elles se recroquevillaient quand le sol vibrait et que les murs tremblaient, puis attendaient que l'assaut fulgurant fût passé. Sans éprouver de peur, mais plutôt une méfiance à l'égard de cet envahisseur qui tuait les étourdis. Elles avaient appris à se tapir dans leur univers souterrain pour n'en sortir que lorsque l'obscurité sécurisante qui leur était familière se confondait avec la nuit au dehors, car elles conservaient la mémoire atavique d'un ennemi dont le seul but était de les détruire. Un ennemi qui existait dans les hautes sphères envahies d'une lumière aveuglante. Un lieu dont l'exploration ne pouvait se faire en toute sécurité que lorsque l'intensité lumineuse diminuait pour laisser place à une délicieuse nuit noire, propice à la clandestinité. Mais même dans ces instants-là, l'obscurité n'était pas totale. Des lumières d'origine diverse transperçaient la nuit. Elles étaient cependant faibles et créaient des ombres, alliées qui les dérobaient au regard. Elles avaient appris à se risquer timidement au dehors, à ne pas s'aventurer loin de leur sanctuaire. Elles se nourrissaient de créatures de la nuit, comme elles, et il leur arrivait souvent de tomber sur une pâture qui n'était pas chaude et ne se débattait pas sous l'étreinte de leurs mâchoires coupantes. Le goût n'était pas aussi enivrant que celui de la chair vivante, tiède et humide, mais leur remplissait l'estomac et elles s'en repaissaient. Pourtant, là aussi, elles se montraient prudentes, n'en prenant jamais trop, ne revenant jamais à la même source, car elles possédaient un sens inné de la ruse, issu d'une sorte de peur intense de leur ennemi naturel. C'était le résultat d'un événement qui avait affecté leur espèce bien des années auparavant. Un fait qui avait modifié le cours de leur évolution et qui les rendait même étrangères aux créatures de la même race. Elles avaient appris à se confiner dans les profondeurs, à ne pas s'exposer au regard de l'ennemi, à mettre leur nourriture à l'abri, veillant à ne pas attirer l'attention, à tuer d'autres créatures sans jamais laisser de traces, et lorsque la nourriture venait à manquer, elles s'entre-dévoraient, car elles étaient fort nombreuses. Elles se déplaçaient dans l'obscurité, noires, le poil hérissé. Elles avaient un arrière-train courbé aux proportions démesurées, de longues incisives acérées et des yeux jaunes perçants. Ces bêtes reniflaient l'humidité, et un instinct, venant du plus profond d'elles-mêmes, les poussait à chercher une odeur différente, qu'elles ne connaissaient pas encore, une suave odeur de sang frais, du sang humain. Elles n'allaient pas tarder à la connaître. Soudain, elles se figèrent. Leurs longues oreilles venaient de percevoir un mugissement lointain. Une plainte obsédante qu'elles n'avaient jamais entendue auparavant. Elles ne bougeaient pas. Bon nombre d'entre elles s'étaient dressées sur leur arrière-train, le museau fébrile, le poil hérissé. Elles écoutaient, en proie à une peur intense tout le temps que dura le bruit. Puis vint le silence, un silence plus effrayant encore. Elles attendirent, n'osant pas bouger, respirant à peine. Un long moment s'écoula avant l'arrivée de l'orage, et ce fut un million de fois plus étourdissant que les bolides géants avec lesquels elles partageaient les tunnels. Cela commença par un grondement sourd qui se transforma très vite en vacarme, ébranlant leur univers souterrain, déchirant les ténèbres, s'attaquant aux murs, aux toits, soulevant le sol et projetant les créatures les unes sur les autres. Elles se lacéraient mutuellement avec frénésie, à coups de griffes et de dents affûtées comme des lames de rasoir. De nouveau, un bruit de tonnerre, cette fois venu d'ailleurs. Poussière, vapeur, bruit emplissaient l'air. Un grondement s'amplifiant en cris perçants, et des grondements, encore et encore. Le monde et le bas-monde en proie au frissonnement. Puis des hurlements. Alors les créatures au pelage noir détalèrent, s'efforçant d'accéder à leur sanctuaire dans un labyrinthe de tunnels. Luttant pour la vie, assourdies par le bruit, couinant de peur, elles tentaient désespérément de retourner vers la reine mère et ses étranges cohortes. Les cavernes construites par l'homme frémirent tout en résistant à la pression déchaînée du monde d'en haut. Des pans entiers s'écroulaient. D'autres étaient envahis par les flots, mais les voies centrales résistaient aux impacts qui anéantissaient la ville. Au bout d'un moment, le silence revint. Hormis le bruit de la débandade de la horde des créatures aux pattes griffues. La première bombe explosa à quelques centaines de mètres au-dessus de Hyde Park, libérant son énergie sous forme de radiation, de lumière, de chaleur, de bruit et de déflagration. Le tout produisant le même effet qu'un million de tonnes de TNT. Les sirènes, qui avaient signalé le missile et l'approche des suivants, semblaient n'émettre qu'un son faible, comparé au vacarme qu'il avait provoqué. En moins de 2 millièmes de seconde après le premier éclair aveuglant, l'explosion avait engendré une petite boule de vapeur brûlante d'une température de 18 millions de degrés Fahrenheit. Un mini-soleil venait de naître, dépourvu de toute substance matérielle. La boule de feu lumineuse se mit aussitôt à grossir et l'air qui l'enveloppait, chauffé par la compression, perdit rapidement son pouvoir protecteur contre les rayons ultraviolets. Le noyau embrasé, croissant rapidement, poussait l'air toréide, formant une onde de choc acoustique, sphérique, qui se mit à se déplacer de plus en plus vite, masquant la folie furieuse de la boule de feu. Comme l'onde de choc se propageait, la boule de feu suivit, dispersant un tiers de son énergie totale. La boule de feu enfla, atteignant près de 800 mètres de diamètre, puis un vide se fit derrière elle, et sa luminosité déclina. Elle se mit alors à tournoyer et à s'élever à une vitesse vertigineuse, formant des volutes de fumée qui entraînaient, dans leur course, des déchets et isotopes radioactifs produits par la fission. La poussière soulevée par ce tourbillon, au fur et à mesure de son ascension, était contaminée par les radiations mortelles qui, libérées par l'homme, montaient dans le ciel avant de recouvrir la cité détruite de ses dépôts meurtriers. Le nuage furieux, avec sa queue de chaleur blanche, continuait de s'élever et avait déjà atteint plus de 9000 mètres de haut, repoussant le soleil de midi, lorsque le missile suivant déclencha l'explosion de sa tête nucléaire. 3 autres bombes de plusieurs mégatonnes allaient suivre. Myriam resta figée d'effroi. Que se passait-il? Pourquoi cette panique? Et cet horrible mugissement perçu quelques minutes plus tôt? Les sirènes de la Seconde Guerre mondiale? Oh non, ça n'allait pas recommencer! Elle était trop effrayée, trop pétrifiée pour faire le moindre mouvement. Tout autour d'elle, les gens, épouvantés, se poussaient, se bousculaient, essayaient de fuir. Mais de quoi avaient-ils peur ? De bombardement ? De toute évidence, cela ne se produisait plus. Elle aurait dû s'intéresser de plus près aux nouvelles, écouter plus attentivement ses voisins. Myriam se rappelait avoir entendu parler à la radio d'une certaine tension au Moyen-Orient. Mais depuis des années, c'était la même rengaine. Cela ne signifiait plus grand-chose. Ce n'étaient que des mots, nouvelles, des événements annoncés d'une voix tranquille par de jeunes commentateurs. Quel rapport avec elle qui, de Chigouel où elle habitait, venait faire ses courses à Tesco, laver ses draps sales, gâter ses petits-enfants ? Aucun. Non, cela ne la concernait nullement. Les yeux écarquillés, tout étourdi, Myriam se tenait à l'angle d'Oxford Street et de Marble Arch. À 67 ans, elle se disait que cette journée de juin s'annonçait pourtant magnifique, chaude et ensoleillée. C'était une journée idéale pour sortir. Tout son temps pour faire les magasins à la recherche d'un cadeau pour le mariage de Becky. Sa jolie petite fille épousait un gentil garçon. Un beau couple. Arnold, qu'il repose en paix, que Dieu lui pardonne, aurait approuvé cette union. Le garçon, pas très séduisant en vérité, mais la vie n'était pas toujours généreuse, avait de bonnes manières et le sens des affaires. Becky apporterait la beauté dans le couple et, connaissant bien la fille de sa fille, Myriam se disait que c'était elle qui tiendrait les rênes du ménage. Loin d'être un mariage voulu par le ciel, c'était plutôt le fruit d'un arrangement entre les futures belles familles, ce qu'on avait coutume d'appeler un mariage de convenance à l'ancienne. Encore qu'il restât quelques bonnes familles fidèles aux traditions. Cacheté, il ne fallait pas s'en faire. L'essentiel, c'était le prix qu'elle y mettrait. Un objet en verre ou quelque chose de pratique, ou les deux à la fois. Un service de verre en cristal, voilà l'idéal. Elle avait esquissé un sourire de satisfaction en trouvant cette idée. Mais le sourire avait disparu avec le hurlement des sirènes. Un jeune couple la bouscula, la plaquant contre une vitrine. La jeune fille trébucha et son compagnon la releva brutalement, repoussant d'une main Myriam. Il vociféra, mais Myriam ne put comprendre ce qu'il disait, car son cœur battait trop fort et elle avait les oreilles remplies des cris des autres. Le jeune couple s'enfuit en titubant, les traces de mascara sur les joues de la jeune fille soulignant la pâleur livide de son visage. Myriam, le souffle maintenant saccadé et court, les vit disparaître dans la foule. Elle appela, en silence, feu son mari. « Arnold, dis-moi ce qui se passe. Il n'y avait plus de guerre, pas ici, pas en Angleterre. Pourquoi cette panique générale ? Que fuyait-il ? » Les sirènes s'étaient tues, mais pas les cris. S'écartant du mur, Myriam tourna son regard vers le parc verdoyant. Elle avait prévu une belle randonnée, une balade jusqu'au lac où Arnold l'avait emmené tant d'années auparavant. N'était-ce pas la première fois qu'il l'avait courtisée ? Ah, quelle sotte ! Utiliser cette expression de nos jours, « courtiser ». C'était alors une période agréable, si innocente. La vie avait-elle été réellement si innocente ? Pas avec Arnold. Que Dieu pardonne à son âme retorse, il était tout de même bon et généreux. Un coup dans le dos faillit la faire tomber. Les bonnes manières se perdent aujourd'hui. Plus de pitié pour les vieux, plus de respect, pis encore. Violer les personnes âgées, éventrer les bébés, telles étaient les nouvelles perversions. Quelle horreur ! Les gens se précipitaient dans les bouches de métro. « Devrais-je les suivre ? Était-on plus en sécurité là-bas ? » Ce qu'ils avaient l'air de penser. « Si seulement je connaissais la nature du danger. » Et puis qu'ils y aillent, je ne vois pas ce qu'une vieille dame comme moi irait faire avec eux. Je me ferais écraser sous leurs yeux et ils s'en moqueraient. Des larmes se formèrent au bord de ses yeux. « Oui, ils se moqueraient bien d'une vieille dame comme moi, Arnold. De nos jours, ces gens, c'est... » Son regard fut attiré par quelque chose dans le ciel. Elle n'avait pas une très bonne vue, mais il lui semblait qu'un objet tombait. À quelle vitesse il se déplaçait ? Était-ce là la raison de leur effroi ? Ses yeux, irrités par les larmes, clignèrent, et dans ce laps de temps, Myriam, les touristes, figés de peur, et les passants qui grouillaient autour d'elle cessèrent d'exister. Leurs vêtements, leur chair, leur sang et même leurs os disparurent. Myriam ne s'était même pas transformée en cendre, elle avait été pulvérisée. Le garage avait toujours vendu l'essence la plus chère de la ville. Pourtant, c'était l'un des plus fréquentés. Le propriétaire, occupé à remplir ses poches des billets du tiroir-caisse, pour la plupart en coupure de 5 et 10 livres, ceux d'une livre ne suffisant plus pour acheter de l'essence en ces temps de pénurie, savait que tout dépendait de l'emplacement. Être situé à un carrefour et dans Maida Vale impliquait des taxes élevées, mais en matière de rentabilité, il n'y avait pas mieux. Howard se retourna avec un geste de mauvaise humeur en entendant une voiture klaxonner devant la pompe. Il n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Les sirènes d'alarme s'étaient tues et, si ce n'était pas une fausse alerte, en quelques minutes la ville allait être atomisée. Et cet imbécile voulait de l'essence. Il eut un geste de colère à l'encontre de l'automobiliste qui lui répondit en désignant son réservoir. Howard claqua le tiroir caisse en y laissant quelques menus monnaies. Quelle importance tout ça. Il se précipita vers la porte sous les coups de klaxon qui redoublaient. « Excusez-moi, pourriez-vous me faire le plein, s'il vous plaît ?» fit l'automobiliste en baissant la vitre. « Putain, vous parlez sérieusement ?» demanda Howard incrédule. Des gens passaient devant le garage en courant. Les voitures étaient pare-choc contre pare-choc, essayant de sortir de la ville complètement paralysée. Il entendait le bruit infernal des collisions. « Je n'ai presque plus d'essence, » insista l'automobiliste. « Il ne m'en reste même plus pour rentrer chez moi. » « Eh ben, prends le train, mon pote !» s'écria Howard en courant vers sa voiture. Il ouvrit la portière puis se ravisa. Impossible de se frayer un chemin dans ces encombrements. Il valait mieux viser les sous-sols, trouver une cave. Pas beaucoup de temps, merde, je savais bien que la journée s'annonçait mal. Il revint précipitamment vers l'automobiliste qu'il regardait d'un air suppliant. « Je vous en prie, » fit-il presque en gémissant. « Pour l'amour de Dieu, servez-vous tout seul !»« Où aller? Où se diriger? Oh merde, personne n'y croyait !» Personne n'avait pris l'affaire au sérieux. Tout le monde savait qu'on était au bord de la catastrophe, mais personne ne pensait qu'elle arriverait un jour. Ce devait être une fausse alerte, à coup sûr. « Laissez l'argent sur le comptoir !» cria-t-il à l'automobiliste qui était descendu de voiture et examinait le tuyau de la pompe, apparemment sans trop savoir qu'en faire. Howard jeta un regard à droite, puis à gauche. N'importe quel immeuble conviendrait pourvu qu'il ait une cave. N'était-ce pas ce qu'on leur avait dit ? Descendez au sous-sol. Peignez vos fenêtres en blanc, barricadez-vous avec des sacs de sable, gagnez la cave, construisez un abri, faites provision de victuailles, d'eau, et restez-y jusqu'à la fin de l'alerte. Dieu du ciel, si seulement il avait de la peinture. Il parvint à la porte d'un pub. C'était parfait, il devait y avoir une grande cave pour stocker la bière. Il poussa la porte, mais elle ne bougea pas. Bon sang, il ne pouvait pas fermer, ce n'était pas encore l'heure. Il essaya une autre porte, puis, furieux, cogna à la porte vitrée et s'aperçut que celle-ci était également fermée à clé. « Les salauds » hurla-t-il avant de se retourner pour jeter un coup d'œil vers son garage. L'automobiliste semblait avoir trouvé comment marcher la pompe. Howard se maudit d'avoir perdu du temps à vider le tiroir caisse. Eddie lui reprochait souvent sa radinerie. Peut-être avait-elle raison, il devrait être déjà à l'abri dans une petite cave agréable. Une fausse alerte n'était tout de même pas à exclure, rien ne s'était encore produit. « Et oui, bien sûr, se dit-il pour se rassurer. Ces sacrés imbéciles avaient commis une erreur. Si quelque chose avait dû se produire, ce serait déjà fait. » Il jeta un coup d'œil à sa montre et la secoua. Impossible, elle n'avait pas pu s'arrêter. Un long moment semblait s'être écoulé depuis le début de l'alerte. Il esquissa un sourire narquois. Quel idiot, il s'était sauvé comme les autres, en proie à la panique, demandant grâce à Dieu. Il voulut rire, mais il ne sortit qu'un son étouffé de sa gorge. « Eh bien, mon pote, je vais te dire une chose, tu vas me payer cette essence. » Howard retourna vers son garage, son petit royaume, secoua la tête avec un étonnement résigné devant tous ces gens qui s'agitaient. Ses deux employés, qui avaient pris la fuite sans son autorisation dès qu'ils avaient entendu les sirènes, étaient bons pour une engueulade à leur retour. Tous des moutons de panurge. L'automobiliste remontait dans sa voiture. « Eh, chef, arrêtez !» s'écria Howard. « Vous me devez... » Un éclair aveuglant l'empêcha de terminer sa phrase. Il sentit soudain ses jambes flageolées et ses entrailles se liquéfier. « Oh non » fit-il en gémissant quand il se rendit compte qu'il n'y avait plus de doute. L'instant fatidique était arrivé. Lui, son garage et l'automobiliste s'embrasèrent. Les réservoirs à essence, bien qu'ils fussent au-dessous du niveau de la rue, furent soufflés instantanément, et les corps de Howard et de l'automobiliste, tout comme ceux qui étaient alentour, carbonisés. Même ceux qui avaient été projetés en l'air furent brûlés vifs. Janet, de son vrai nom Brenda, regardait à la fenêtre du 8e étage du Hilton de Londres, le regard plongé sur le vaste parc en contrebas. Elle alluma négligemment la cigarette qui pendait à ses lèvres peinturlurées, tandis que l'arabe et ses deux jeunes compagnons cherchaient leurs vêtements partout dans la suite. Le plus âgé sa gandoura blanche, les deux autres leur costume européen d'une coupe parfaite. D'après les journaux, c'étaient eux les responsables puisqu'ils tenaient le monde à leur merci avec leur satané pétrole, boudant au moindre affront diplomatique et distribuant ou non l'or noir, selon leur humeur. Ils agissaient comme des enfants gâtés qui donnent une fête chez eux. « Toi, Amanda, tu prendras du gâteau, mais pas toi, Clara, parce que cette semaine, je t'aime pas. » Maintenant, ils étaient tous prêts à en payer le prix, la fête était finie. Elle observait tous ces gens qui filaient dans la rue, ces cavaliers qui éperonnaient leurs chevaux le long de Rottenrow, ces amoureux qui, main dans la main, traversaient le parc en courant. Certains résignés comme elle étaient allongés dans l'herbe et attendaient la suite avec fatalisme. Janet tressaillit lorsqu'un piéton, essayant de traverser la rue, fut projeté sur le capot d'une voiture. De cette hauteur, on ne distinguait pas si c'était un homme ou une femme. Toujours est-il que l'individu en question était étendu sur la chaussée, inerte, et nul ne semblait s'en préoccuper. Au moins pour elle ou lui, c'était fini. Derrière elle, les Arabes s'invectivaient en enfilant leurs pantalons, leurs chemises. Le plus gros, le plus âgé, fut le premier habillé car il n'avait que sa longue robe à mettre. Il se dirigeait déjà vers la porte, suivi des deux autres qui sautillaient à moitié nus. Les imbéciles, le temps que l'ascenseur arrive, tout serait terminé. Et ils n'iraient pas loin par les escaliers. Les sirènes avaient enfin cessé. Janet aspira la fumée de sa cigarette qui lui emplit délicieusement les poumons. 40 par jour et ce n'est pas cela qui allait la tuer. Elle eut un petit rire saccadé, aigu et presque silencieux. Ses traits ne se faneraient jamais. Elle promena son regard dans la chambre d'hôtel vide et secoua la tête d'un air dégoûté. Ils vivaient et forniquaient comme des cochons. De quelle manière allait-il mourir ? Inutile de se poser la question. Cependant, elle en avait rencontré quelques-uns en faisant sa tournée de Park Lane qui étaient de vrais hommes du monde et la traitaient avec respect et même douceur. C'était gratifiant. Ces temps-ci, elle avait appris à se montrer moins difficile. La meilleure époque, bien qu'elle n'eût pas été à la mesure de ses ambitions, avait été ce qu'elle appelait les années de haut et de bas. Cela avait été bénéfique pour une de ses connaissances, actrice médiocre, qui n'avait jamais percé. Une femme surtout réputée pour ses appâts et connue des hommes d'affaires louches avec lesquels elle couchait. Sa tactique l'avait amenée à épouser un milliardaire qui l'avait quitté très rapidement, mais l'aventure lui avait rapporté très gros. D'innombrables vedettes et photographes de renom avaient ajouté à sa notoriété et grossi son compte en banque. La technique était simple, quoique parfois coûteuse. L'hôtel où Janet descendait, comme jadis son amie actrice, était situé un peu plus loin dans Park Lane et avait un caractère plus anglais que le Hilton. Elle avait réservé la chambre la moins onéreuse, qui n'était d'ailleurs pas donnée, et passait le plus clair de son temps à monter et descendre dans l'ascenseur. Elle prenait l'ascenseur réservé aux clients, du dernier étage, traversait la vaste salle de réception et les salons, se dirigeait vers les ascenseurs, remontait au dernier étage puis redescendait par l'ascenseur réservé aux clients. Elle atteignait presque toujours son but quand elle partageait l'ascenseur avec un, parfois deux hommes. Un petit sourire timide de leur part, un mot sur le temps, une invitation à prendre le thé, peut-être à dîner, et le tour était joué. Elle s'en sortait toujours. Le personnel de l'hôtel s'en était vite rendu compte, mais ce type d'établissement, même de grande classe, autorisait une certaine liberté dans ce domaine. Du moment qu'il n'y avait pas d'ennui, que les prostituées se montraient discrètes, qu'aucun vol n'était signalé, la direction fermait les yeux, tout en restant vigilante. Cependant, Janet n'avait jamais tiré le gros lot. Presque, mais pas tout à fait. Maintenant, c'était un peu tard. Ses traits s'étaient un peu fanés, ses appâts étaient moins attrayants, d'où le choix de Park Lane Mayfair. Les rendez-vous étaient souvent pris par téléphone, mais le trottoir était aussi payant. Elle pouvait bien se passer de ses séances à 3 participants au plus, car c'était plutôt fatigant. Elle retourna à la fenêtre et appuya la tête contre la vitre froide. Les cris des passants lui parvenaient. Ses yeux s'humectèrent. Était-ce le résultat final ? Tout cela pour en arriver là ? Au 8e étage d'un hôtel, nu comme au jour de sa naissance, le corps endolori après avoir été laminé par 3 clients, la jouissance, les plaisanteries, Janet s'écarta de la fenêtre et écrasa sa cigarette contre la vitre. Peut-être valait-il mieux attendre. Peut-être n'était-ce rien du tout. C'était ce qu'on pouvait souhaiter de mieux. Elle cligna des yeux quand le monde ne fut plus qu'un éclair blanc, mais ses rétines s'étaient déjà pulvérisées. Son corps et la vitre s'étaient confondus tandis que la bâtisse s'écroulait. La boule de feu s'éleva, propageant une onde de chaleur et tout ce qui était inflammable, tous les matériaux légers s'embrasèrent. La chaleur torride envahit les rues, faisant fondre tous les corps solides, carbonisant les passants qui grésillaient en se consumant, tuant tout être vivant dans un rayon de presque 5 km. En quelques secondes survint une explosion qui, accompagnée de rafales de vent de plus de 300 km/h, se propagea à la vitesse du son. Des bâtiments s'effondrèrent, les débris retombant comme des missiles mortels, les vitres volaient en éclats. Des véhicules, voitures, autobus, tout ce qui n'était pas à l'abri dans les sous-sols, était propulsé en l'air, tels des feuilles au gré du vent, avant de s'écraser à terre. Les passants étaient soulevés et projetés contre les bâtisses qui s'écroulaient. Une pression intense faisait éclater les poumons, les tympans et les organes internes. Les réverbères devenaient des javelots de béton ou de métal. Les câbles électriques, arrachés, des serpents oscillant dans une danse macabre. Les conduites d'eau éclataient et se transformaient en fontaines de vapeur bouillonnante. Les conduites de gaz explosaient de concert, tous mêlés à ce déchaînement de folie. Au loin, les maisons et les immeubles, avec la différence de pression et sous l'effet de l'explosion, étaient soufflés. Tous ceux qui étaient surpris dehors voyaient leurs vêtements s'enflammer instantanément, et leur brûlure au troisième degré ne leur permettait pas de survivre. D'autres étaient enterrés sous les décombres, certains tués sur le coup, la plupart agonisant lentement, en proie à des souffrances intolérablement longues, avant de succomber. Les incendies se succédaient jusqu'à devenir un embrasement général. L'officier de police, John Mapstone, devait se rappeler son 5e jour d'intégration dans la police. Sa mémoire avait toujours été défaillante. Heureusement, le niveau requis pour entrer dans la police baissait chaque année, mais, comme il n'avait plus que quelques minutes à vivre, ce ne fut pas un très gros handicap. Dès qu'il entendit le mugissement des sirènes, il sut guider la foule. Il oublia aussitôt les deux rastas qui erraient devant la vitrine du magasin de jeans et se dirigea, d'un pas ferme et sûr, quoique vif, vers la bouche de métro d'Oxford Circus. Un coup d'œil jeté derrière lui lui permit de constater que les rastas en avaient profité pour dérober une paire de jeans et un sac en bandoulière en toile. « Bonne chance, mes petits », songea-t-il d'un air sinistre. « Je vous souhaite de le porter longtemps. » Il essayait de garder l'équilibre au milieu de la foule qu'il bousculait, espérant que quelqu'un arrêterait ces satanées sirènes qui ne faisaient qu'accentuer la pagaille. Les signaux rouges et bleus du métro londonien étaient juste devant lui et il fut aspiré par une masse haletante de bras et de jambes. « Du calme !» criait-il à la ronde. « Ne vous énervez pas !» Sans doute ses pommettes roses et son visage juvénile n'inspiraient-ils pas confiance. Personne ne tint compte de ces paroles rassurantes. « On a largement le temps de se mettre à l'abri !» Il essayait de parler d'une voix calme, comme on le lui avait enseigné, mais le ton montait à la fin de chaque phrase. « L'uniforme bleu est une marque d'autorité », avait dit le sergent instructeur aux recrues d'un ton péremptoire. Les gens s'attendent à ce qu'un agent en uniforme bleu leur dise ce qu'ils doivent faire. Cela n'avait certainement pas entendu un seul des sermons du sergent. L'officier de police Mapstone fit une autre tentative. « Je vous en prie, pas de précipitation. Tout se passera bien si vous ne vous bousculez pas. » Les escaliers étroits qui descendaient au métro semblaient engloutir la foule, et l'agent de police fut pris dans le flot. Les clameurs étaient horribles. Il chercha désespérément du regard un collègue, mais il y avait bien trop de monde pour distinguer qui que ce soit. Les gens avaient convergé vers les tourniquets électroniques de contrôle d'accès, provoquant un engorgement. Mais ils passaient par-dessus ou par-dessous avec une hâte effrénée. D'autres fuyaient par les tourniquets de sortie, vers des escaliers mécaniques, dans l'espoir de se trouver bien au-dessous du niveau de la rue avant que l'impossible, l'incroyable, le « personne n'est assez fou pour appuyer sur le bouton » ne se produise. L'officier de police Mapstone tenta de se retourner, les bras en l'air tel le roi Lear intimidant des ordres à la marée qui affluait. Dans la bousculade, son casque se retrouva de guingois, avant de disparaître sous une masse mouvante d'épaules. Il ne pouvait que se laisser guider, à reculons, ses bottes touchaient à peine le sol. « Si seulement tous ces gens faisaient preuve de bon sens, se disait-il. À quoi bon tout cela ?» Mais la peur était contagieuse et elle ne tarderait guère à ébranler son calme précaire. Très vite, lui aussi ferait partie du troupeau. Son dos heurta une masse dure qui, selon toute vraisemblance, devait être le tourniquet de métal dont les barres, limitant les entrées, avaient été tordues et arrachées de leur support sous la pression de la foule. Et Mapstone fut entraîné par la marée humaine. Il parvint à se tourner et à se remettre debout avant de se frayer un chemin vers les escaliers mécaniques, se servant de ses bras comme un nageur se débattant dans une mélasse épaisse et visqueuse. L'escalator montant s'était arrêté à cause de la foule qu'il prenait en sens inverse, tandis que celui qui descendait semblait marcher normalement. Il s'y trouvait maintenant, et bien que le mouvement fût lent, il faillit perdre l'équilibre. Il essaya de saisir la rampe en caoutchouc, mais il y avait trop de monde dans les deux sens. Un corps se laissa glisser le long de l'escalier central, entre les escalators. L'homme ayant compris que c'était le moyen le plus rapide pour descendre, un autre le suivit, puis un autre encore, et ainsi de suite. Des corps entremêlés, les bras dans tous les sens, s'accrochant à tout ce qui se présentait, glissaient à vive allure, s'efforçant de rester debout dans la cohue. Une main désespérée saisit un bras et s'y cramponna. Les corps s'entassaient, le poids était trop lourd, celui qui se trouvait dans les escaliers fut poussé en avant. Ceux de devant commencèrent à tomber, faisant trébucher les suivants. L'officier de police Mapstone se mit à hurler. L'escalier mécanique sous l'excès de poids s'arrêta après quelques secondes. Ce fut alors une bousculade incontrôlée où tous les corps s'affalaient les uns sur les autres. Bon nombre de ceux qui se trouvaient au centre tombèrent sur ceux qui étaient sur l'escalier adjacent, provoquant une autre avalanche humaine. Malgré la vigueur de sa jeunesse, Mapstone sentait son ardeur faiblir. Il essayait de se maintenir debout, s'aidant de ses mains, essayant de saisir les rampes de chaque côté. Ce fut peine perdue. Il parvint à poser la main sur l'épaisse rampe de caoutchouc, mais son poignet fut aussitôt happé par la foule. Il hurla de douleur, mais son cri ne couvrit même pas les hurlements alentour. Sa vue se brouilla sous l'éclat étincelant des raies de lumière qui surgissaient pour disparaître aussi vite, créant un kaléidoscope cauchemardesque. Avant que la nuit ne soit totale, avant que ses os et ses côtes ne pénétrèrent ses poumons, avant que sa gorge ne soit complètement obstruée par un genou qui n'avait aucune raison de se trouver là, et avant que tout bon sens ne quitte son esprit assiégé, il lui sembla percevoir un grondement sourd qui n'avait rien à voir avec le chaos qui régnait autour de lui. Un son qui avait l'air de jaillir des entrailles même de la terre. « Oh oui !» se dit-il d'un ton convaincu. « C'était bien la bombe. » L'instant tant redouté était survenu. Alex Dillé courait à perdre haleine, la chemise blanche qu'il portait sous son costume gris déjà taché de sueur. Presque inconsciemment, il tenait fermement la sacoche, comme s'il importait encore que l'on ne trouvât pas des documents gouvernementaux secrets dans la rue, ou plutôt dans les décombres. Il aurait dû prendre un taxi, ou même un bus. Il serait arrivé à destination depuis longtemps et serait maintenant en sécurité. Mais en cette journée de juin, si agréable, si chaude, il avait été infiniment préférable de se balader plutôt que de prendre un moyen de transport fermé. Fini la belle journée, même si le soleil continuait à briller haut dans le ciel. Il résista à la tentation d'entrer dans l'un des nombreux immeubles de bureaux qui longeaient High Holborn et de se mettre à l'abri dans la fraîcheur de leur cave. Il en avait encore le temps. Il serait tellement mieux s'il parvenait à la destination qu'il souhaitait. Là, il serait totalement en sécurité. Et puis, il était de son devoir de s'y trouver en cette circonstance désastreuse, unique dans l'histoire. Oh Dieu, était-il si loin de ce quartier de bureau pour traiter l'événement d'historique ? Même s'il n'était qu'un sous-fifre par rapport au grand de ce monde, son apparence, son esprit portait-il déjà l'empreinte d'une froide logique, presque inhumaine ? Certes, il avait apprécié les privilèges accordés, mais peut-être le plus important allait-il se présenter maintenant, si seulement il avait le temps d'arriver. Une femme, devant lui, fit un faux pas et s'affala, faisant trébucher Dillé. Le trottoir lui égratigna les mains et les jambes. Il resta là un instant, se protégeant le visage contre les coups de pied et de poing alentour. Le vacarme était effrayant. Hurlements et clameurs, coups de klaxon incessants car il était impossible d'avancer à cause des véhicules abandonnés par leurs conducteurs qui avaient fui en laissant le moteur tourner. Les horribles sirènes, dont le mugissement glaçait l'esprit et le cœur, annonçaient le deuil qui bientôt... Elle s'était arrêtée. Les sirènes s'étaient arrêtées. L'espace d'un bref instant irréel, le silence fut presque total. Les gens s'étaient figés, se demandant si tout cela n'avait été qu'une fausse alerte, un canular insensé. Mais certains, parmi la foule, avaient compris la raison de cet arrêt. Ils s'engouffrèrent sous les porches les plus proches, la panique éclata de nouveau quand d'autres se rendirent compte que l'Holocauste n'était qu'une question de secondes. Une moto grimpa sur le trottoir et faucha la foule, dispersant hommes et femmes, attrapant au passage les moins lestes et les renversant comme des quilles. Ils n'avaient pas vu la femme prostrée que Dillé avait fait tomber. La roue avant toucha son corps et la moto s'éleva en l'air. Le motocycliste, dont le cri fut atténué par la visière d'un noir sinistre qui lui couvrait le visage, fut propulsé encore plus haut. Dillé se recroquevilla par terre tandis que l'engin lui passait au-dessus de la tête avant d'aller heurter de plein fouet une vitrine. Des étincelles et du métal jaillirent de la moto au même moment où elle s'écrasa contre le rebord en pierre de la vitrine. Elle s'immobilisa, à cheval entre l'intérieur du magasin et la rue. De la fumée sortait du moteur tordu, encore secoué de quelques soubresauts. Le motocycliste gémit tandis que du sang sortait de son casque fêlé et dégoulinait le long de son cou. Dillé, vite relevé, s'était mis à courir, sans prêter la moindre attention à la femme qui se tordait de douleur sur le trottoir, ni à la sacoche abandonnée qui contenait ses précieux documents. Il était seulement content d'être indemne et son plus vif désir était de rejoindre le plus vite possible son abri. La station de métro, Chancery Lane, n'était pas loin. En l'apercevant, il reprit espoir. Il allait bientôt arriver à destination. Mais le monde ne fut plus soudain qu'un éclair blanc aveuglant. Et bêtement, car mieux que quiconque il aurait dû y penser, Dillé se retourna pour regarder. Paralysé, aveuglé, il poussa un cri intérieur s'attendant à l'inévitable. Le rugissement menaçant à vous briser les tympans retentit, mais l'inévitable ne se produisit pas. Au contraire, il sentit des mains rugueuses le saisir et son corps fut projeté en arrière. Son épaule se fracassa contre une masse qui céda, et il fut tiré. Il se sentit tomber, en même temps que quelqu'un ou quelque chose. La terre tremblait, le bruit était assourdissant, les murs s'effondraient. La douleur cuisante aux yeux disparut pour laisser place aux fraîches ténèbres de l'inconscience. Les premières explosions atomiques, il y en eut 5 sur Londres et dans ses faubourgs, ne durèrent que quelques minutes. Les nuages noirs, en forme de champignons, s'élevèrent très haut sur la ville dévastée, se rejoignant en une couche épaisse de fumée tumultueuse qui donnait au jour l'aspect de la nuit. La poussière amoncelée et les fines particules ne furent pas longues à retomber çà et là sur la terre. Ce n'était plus simplement de la poussière et de la poudre, mais bien les sinistres héros de la mort. Ainsi s'achève ce moment de lecture. Avant de vous quitter, une petite recommandation. Il s'agit de la collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft, édité chez Kiyun. Il s'agit de l'adaptation en manga des nouvelles de l'auteur. Vous pourrez retrouver Les montagnes hallucinées en 2 tomes, Dans l'abîme du temps, et très récemment La couleur tombée du ciel. Avec un trait sombre et réaliste, le mangaka Gutanabe arrive parfaitement à mettre en image les pires cauchemars de l'auteur. N'hésitez pas à vous plonger dedans. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en DM sur Twitter, par mail à bruno@talfo.com ou sur la page Facebook du podcast. N'hésitez pas à me faire des propositions de lecture, à me donner vos avis sur les ouvrages, ils seront ainsi lus lors du prochain épisode. N'hésitez pas à partager, mettre un petit avis sur Apple Podcast. Et je vous invite aussi à découvrir nos autres productions sur le site talfo.com et à venir nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. C'était Calix qui vous souhaite de belles lectures horrifiques, de belles découvertes fantastiques, et je vous dis à très bientôt dans Easy Reader.
Création TALFHO.